Au départ, le nationalisme palestinien, dans les années 60, hein, quand il réémerge, porté par l'Organisation de libération de la Palestine et Yasser Arafat, c'est un mouvement qui prône la lutte armée, la mobilisation du peuple pour lutter contre Israël, récupérer la totalité des terres perdues en 1948 au moment de la création de l'État d'Israël, et permettre aux réfugiés, qui sont aujourd'hui 4 millions, de revenir s'installer sur leur terre d'origine. En 1988, il y a une déclaration importante d'Yasser Arafat, c'est la déclaration d'indépendance de l'État de Palestine. Alors c'est une déclaration unilatérale, c'est la première fois que le nationalisme palestinien porté par Yasser Arafat met en place un État à l'intérieur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc implicitement, le mouvement reconnaît à partir de là qu'il y a, au-delà de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, un territoire, un espace qui ne revient pas de droit aux Palestiniens, qui est donc Israël. Et c'est à partir de ce moment-là, donc 88, que émerge en fait un deuxième type de nationalisme qu'on appelle souvent de l'islamo-nationalisme, porté par le Hamas, qui lui, il faut poursuivre la lutte armée contre Israël et qu'il faut continuer à revendiquer l'ensemble du territoire perdu en 1948. Et créer donc un État sur la totalité de la Palestine. La direction du Hamas va très vite considérer qu'il y a quand même une priorité, c'est de créer un État sur les territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale.
On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a deux Palestines, Gaza et la Cisjordanie. Ce morcellement n'est-il pas le principal obstacle à l'édification un jour d'un État palestinien ?
Tout à fait, c'est particulièrement inquiétant. C'est quand même quelque chose qui est en train de devenir structurel dans la manière dont pensent les gens, dont ils se regardent aussi, un peu dos à dos, Cisjordanien contre Gazaouite. La porte de sortie, je dirais, qu'expère la majorité de la population, c'est la constitution d'un gouvernement d'union nationale, ce sur quoi Mahmoud Abbas s'oppose encore vigoureusement.
Pendant l'offensive israélienne sur Gaza, de nombreux pays arabes ont critiqué l'État hébreu sans pour autant apporter un soutien clair à la cause palestinienne. Comment expliquer cette relative indifférence ?
Je pense qu'indifférence, c'est quand même un peu fort. Il y a un positionnement très ambigu des populations arabes par rapport au conflit israélo-palestinien. Dans l'ensemble du monde arabe aujourd'hui, il y a une espèce de partition du monde politique en deux, entre le parti au pouvoir et les opposants islamistes, et que ce qui se joue en Palestine aujourd'hui entre Fatah et Hamas les renvoie aussi à leurs propres tensions politiques internes. La position du gouvernement égyptien était assez caractéristique en la matière, parce qu'effectivement, porter la voix contre Israël, ce serait, dans le cadre du conflit actuel, renforcer le Hamas. Or, le Hamas, c'est une émanation des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un mouvement né en Égypte dans les années 20 et c'est aujourd'hui la principale opposition politique à son propre gouvernement.
Alors, l'autorité du Fatah est en crise. La réconciliation du camp palestinien ne doit-elle pas passer par un nouveau leadership ?
Il y a des personnalités politiques, mais il y a un vrai problème au sein du Fatah, d'une génération proche de Mahmoud Abbas qui, pour l'instant, ne veut pas lâcher le pouvoir. Mais en même temps, il y a quand même aussi un problème, je dirais, de programme politique, de ligne politique offerte par le Fatah à la population, notamment par rapport à toutes les questions essentielles qui sont Jérusalem, les colonies israéliennes en Cisjordanie et les réfugiés. Toutes ces questions, les Palestiniens attendent des réponses et n'en ont pas de la part de ce parti. Donc c'est aussi un parti qui doit restructurer, repenser sa ligne politique, et ça ne se fait pas en un an.